Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de puissance maximale à l'écoute de Star Trek pour les nuls, le podcast. En 2009, après 7 longues années de silence, Star Trek revient sur grand écran avec à la réalisation J.J. Abrams. Le but avoué de la Paramount est de ramener la saga sur le devant de la scène en maximisant les profits puisque le scénario fera revenir l'équipage original mais sous la forme d'un reboot permettant de grandir au passage sa fanbase. Échec ou réussite, eh bien, nous allons le savoir dans quelques instants avec l'avis de nos cadets, Charles.
Yeah, salut à tous!
Et Renaud.
Salut tout le monde.
Pour rappel, Charles et Renaud sont de véritables newbies, entre guillemets, de Star Trek, et découvrent cet univers au fur et à mesure des émissions. Leur mission sera de nous faire des retours critiques sur les séries, films et autres œuvres de l'univers. Et pour m'épauler cette fois, ce n'est pas mon ami JP, mais deux nouveaux commanders, façon Jean-Luc Picard. Drakkor, j'ai bien prononcé?
Non, mais c'est pas grave.
Drakkor du portail.
Je suis critique.
Drakkor du portail Ultime Frontière de la communauté francophone Star Trek et du Star Trek French Club. Ça fait un gros pédigré. Bonsoir, comment vas-tu?
Très très bien, je suis content d'être là.
Nous aussi.
C'est déjà ça.
Et Byron, l'administrateur de la page Star Trek Discovery Friends. Comment
ça va? Ça va. Très bien.
Quant à moi, je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls.
One
small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek, pour les nuls. Alors, avant toute chose, un petit retour sur les commentaires et les remarques de l'émission précédente. Déjà, on a reçu beaucoup de messages positifs et amicaux. Ça fait très chaud au cœur. Merci beaucoup. Ce podcast, cette émission, c'est un projet de groupe. Même si c'est moi qui parle beaucoup, c'est parce que je suis l'animateur, mais les idées et les concrétisations de ces idées viennent quand même beaucoup, 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 beaucoup des membres. Alors merci à tous et à toutes.
Ce qu'il dit pas aussi, c'est qu'il abanne tous ceux qui disent du mal, mais...
Oui, tout de suite. C'est pour ça que JP n'est pas là, il a dit à un moment, c'est pas bien. Le début jusqu'au générique de la première émission a été beaucoup trop lu. Oui, et ça c'est totalement ma faute. Je vais faire en sorte de m'améliorer. En fait, le but que je cherche, c'est une présentation de l'émission. Du coup, en fait, je vais continuer de garder les parties écrites, histoire de ne surtout rien oublier. Mais c'est promis, je vais améliorer ma diction. J'espère que c'est déjà mieux aujourd'hui, mais bon, on verra. On m'a souligné également que le son était inégal. Alors là, le problème, c'est que c'est plus délicat. C'est toujours compliqué, en fait, quand on travaille en ligne, d'avoir un son égal partout. Mais d'un côté, si on n'était pas en ligne, en fait, ce serait pour moi impossible de tenir une émission. Et d'ailleurs, on a tous très peu de disponibilité physique, sans parler de
Et puis, on n'habite pas à côté, en plus. Hein, enfin, il y en a un qui vient du Québec. Donc, mis à part si nos auditeurs sont prêts à nous offrir les billets d'avion pour aller au Québec...
Moi, voilà, on n'a qu'à faire un crowdfunding.
Une fois par mois pour aller au Québec, tous ensemble. C'est sympa, je
prends. Putain, je te dis pas les visas. La durée était trop longue. Alors, en fait, pour la première émission, je pense qu'on a fait un double épisode, un double pilote comme dans les séries. C'est pour ça d'ailleurs j'ai mis une pause musicale. Mais à l'avenir, ça devrait être plus court. Quitte à... C'est d'ailleurs peut-être ce qu'on va faire ce soir, couper l'épisode en plusieurs parties.
Tu sais que généralement, ceux qui disent ça, qui font les podcasts et les vidéos, généralement, c'est leurs vidéos les plus longues. Quand je dis ça, je dis rien.
Mais d'ailleurs, en parlant de ça, on va rentrer dans le sujet qui m'a fait mal à mon petit cœur. J'ai reçu
un
critique. Oui, et il est fragile. Éviter de rigoler et éviter les private jokes. Donc, merci, c'est ce que tu viens de faire exactement. Éviter de rigoler, éviter les private jokes, ça ne fait pas assez préparer. Alors, je pense que là, cet auditeur qui nous a signalé ça, ce qu'il a voulu dire, c'est simplement qu'on ne faisait pas pro. Mais c'est normal, parce qu'on n'est pas des pros. La ligne directrice que j'ai voulu mettre dans ce podcast, je la tiens d'autres émissions que j'écoute très régulièrement, entre autres le podcast de La Cellule, Les Voix d'Altaride et Comic City. L'idée de base, en fait, elle est très simple. C'est des amis ou des personnes qui se découvrent, qui discutent autour d'une passion commune. On n'est pas des journalistes.
C'est de la discussion de bistrot, quoi.
Oui, voilà, on n'est pas des journalistes, on n'a pas la science infuse. et on a juste une passion qu'on veut partager le plus ouvertement possible et le, de manière la plus passionnelle. C'est pour ça que j'utilise la Prime Directive, on en parlait juste avant l'enregistrement, la Prime Directive de la cellule, pas de podcast avant le podcast, pour garder la fraîcheur dans nos échanges. Donc ça, je comprends que ça puisse
en rebuter certains.
Voilà, rebuter certaines personnes. Voilà, mais on n'est pas... On n'est pas sur France Culture, on n'est pas sur France Inter, c'est un parti pris, voilà, qui...
Après, comme tu le dis... Après, comme tu le disais, c'est vrai que d'avoir écouté l'émission, je pense pas qu'il y ait eu de private joke, mais je pense que du fait qu'on se connaisse et que le feeling passe assez bien, en fait, dès la première émission, peut-être certaines personnes ont pu avoir cette impression, alors qu'au final, voilà, c'était...
Moi, ce que je trouve qui est drôle, c'est qu'on se connaît pas, on se connaissait pas réellement avant l'émission, en fait.
Tout à fait, en plus.
Moi, je prends ça pour un compliment qu'on fait les private jokes, parce que avant l'émission, en fait, on a échangé quelques mots avant. Rémi, on se connaissait à l'époque.
Photo aussi.
Mais on s'est retrouvé il y a quelques années. Il y a quelques années, enfin, donc oui. je trouve que c'est plus un compliment, en fait.
Voilà, pour l'histoire, j'étais au lycée avec Charles, puis j'ai déménagé de ville et je me suis retrouvé au lycée avec Renaud. Donc, Charles et Renaud ne se sont jamais rencontrés. On a tous coupé les ponts, parce que voilà, les choses de la vie. Puis j'ai retrouvé les deux, enfin Charles, il y a quelques années, et enfin voilà, par Internet. Mais après, JP et eux et moi, on ne s'est jamais rencontrés. Dragor et Byron non plus, enfin voilà. Donc c'est bien. Et dernière critique, enfin voilà, c'est plus une question qu'une critique, mais à laquelle je tenais à répondre. Pourquoi ne pas avoir traité la série animée? En fait, là c'est moi également, mais on en avait parlé avec JP. Je considère personnellement la série animée comme la suite directe de la série live action. Au final, elle apporte en fait surtout, selon moi, une liberté artistique visuelle. C'est super cool, on a des extraterrestres à quatre bras, on a des vaisseaux difformes, on a des monstres géniaux, on a des scènes hyper psychédéliques. Mais le fond reste le même. Et puis, de toute façon, c'est un dessin animé des années 70, donc c'est très, très, très compliqué à suivre. Voilà. Je pense pour des noobs, on voulait pas trop les rebuter.
Alors, je suis assez d'accord, c'est vraiment, enfin, moi je pense pareil, c'est vraiment la quatrième saison, la série originale. Mais je suis d'accord avec l'auditeur qui en a parlé, parce que, en fait, la série animée est assez peu connue, y compris chez les fans de Star Trek. Et elle passe souvent à la trappe et je trouve ça assez dommage parce que elle est vraiment de bonne qualité quoi. Effectivement, il y a l'animation qui c'est typique des années 70 et ils économisaient beaucoup, il y a pas mal de réalisation de plans, c'est pas très fluide mais à part ça
Oui, c'est une très très bonne série. Mais, enfin, si vous aimez Star Trek et que vous ne connaissez pas, lancez-vous dedans, c'est génial. Surtout que c'est devenu facile d'accès maintenant.
Puis en VO, c'est les voix des acteurs de la série originale. Donc.
Oui, totalement. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez aborder, vous? Ok, merci beaucoup. Alors, voilà. Retournons à notre émission. Le sujet du jour, Star Trek, le film de 2009. Alors, ça va être Renaud, cette fois, qui va vraiment présenter le truc. Mais avant ça, je voulais savoir, vraiment, sans entrer dans le détail... si le film pour vous chacun a été plutôt positif ou négatif. Byron, qu'est-ce que tu en as pensé?
Pour moi, c'est un bon film. J'ai accroché dès le départ.
Ok. Et Dragor?
Alors moi, j'ai deux trois opinions différentes en fait. Je suis un peu schizophrène sur le coup. La première fois que je l'ai découvert, il m'a absolument pas marqué. Quand je l'ai revu après être devenu fan de Star Trek, je l'ai détesté, mais il m'a vraiment énervé quoi. C'était assez violent. Et là, quand je l'ai revu récemment, il m'a juste rendu triste.
J'adore la joie qu'apporte Star Trek aux gens.
C'est pas mal.
Ok. Renaud, t'en as pensé quoi, toi, en général?
Pour faire simple, ben un peu comme Dragor, c'est-à-dire la première fois que j'ai essayé de voir le film, j'ai arrêté au bout de 10 minutes. Alors j'étais vraiment après... Enfin, comment dire, l'univers de Star Trek m'était inconnu. Après, je l'avais revu il y a quelques années, et donc récemment pour faire la critique. C'est mitigé de temps en temps. Après, je dirais quand même dans l'ensemble, bon divertissement. Voilà. Et là, c'est vraiment en essayant de sortir de ce côté en connaissant désormais Star Trek. Voilà. Parce que le fait qu'on ait découvert l'épisode précédent, ça portait un peu de connaissance dans cet univers. Mmh. Et vraiment, en tant que spectateur, en restant juste dans cette idée de film en tant que tel, sans connaître l'univers, je reste sur un bon divertissement.
Ok. Et toi, Charles?
Alors, moi, du coup, je l'ai vu au total 3 fois. La première fois, c'était il y a plusieurs années. C'était avec des potes qui voulaient se faire Star Trek. Je n'avais jamais regardé Star Trek et j'en avais rien à foutre, désolé. Et donc, du coup, bah, je me suis emmerdé et puis je faisais autre chose en même temps. La deuxième fois, bah, c'est pour l'émission, du coup. Du coup, je l'ai regardé avec ma femme. Et là, j'avais bien aimé côté divertissement. Voilà, on se l'a regardé tous les deux, on se fait une soirée tranquille, voilà. Et je l'ai revu une dernière fois pour prendre des notes justement sur le film et l'analyser un peu plus en profondeur. Et bah là, j'ai vu pas mal de défauts quand même. Donc, on va dire que c'est un bon film, mais de divertissement où il faut poser le cerveau, quoi, en fait.
Ok.
Ah, voilà.
Alors juste, vu que tout le monde a fait un petit historique, Byron, t'as été le seul à juste me dire ce que t'en penses. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton passif avec ce film?
À vrai dire, j'ai découvert l'année de sa sortie, je découvrais tout juste Star Trek. Il est sorti en 2009 et un an auparavant, je découvrais Voyager. Donc pour moi, c'était un univers complètement nouveau. Donc j'étais vraiment familier avec Voyager et j'ai plutôt vraiment accroché puisque j'aime beaucoup quand il y a de l'action. Certains épisodes que j'ai pu voir des séries, ça traîne en longueur. Moi, dès qu'il y a de l'action, forcément, ça m'a plu. Puis les effets spéciaux, qui n'ont complètement rien à voir avec ce qu'on connaît avec les séries.
Ok. Bon, eh c'est très hétéroclite, c'est sympa. Renaud, est-ce que tu veux qu'on te lance dans la merde,
À la
j'ai
fosse au
perdu
lion.
le dans la fosse de
À
suite. T'es chaud?
la
L'abattoir.
deuxième émission, ça fait un peu flipper. Allez, c'est parti.
Allez, courage.
Donc voilà, pour résumer, alors comment on fait un petit résumé rapide quand même du film ou on
Peut-être.
passe directement à la première
Je
scène?
partirais plutôt sur les informations générales du film. Ouais.
Ou alors comme Sinoc disait, donc Star Trek sorti en 2009 de J.J. Abrams, pour faire simple et résumé avant de passer aux scènes par scène, sur les deux personnages de Spock et Kirk, en fait, dans cet univers de Star Trek par rapport à un ennemi assez posant et impressionnant, voilà, qui va faire son apparition. Et semblant vouloir à Spock, alors que pour l'instant, on sait très peu de choses sur lui. Eh bien, on commence là.
Ouais, allez, c'est parti.
Alors, toute première scène, donc même avant la première scène d'ailleurs, on a une musique, voilà, qu'on commence à entendre le long, voilà, des logos de production, bon, notamment pour J.J. Abrams pour Bad Robot. Et là, apparaît. Alors, est-ce un clin d'œil ou vraiment est-ce que J.J. Abrams est un fan à 100 voire 200%? Puisqu'il a fait Star Wars 7, on s'en doute. Mais voilà, comme tous les Star Wars, on commence avec un vaisseau dans l'espace. Et là, donc, apparaît, eh bien, le fameux vaisseau, donc, qui s'appelle l'USS Kelvin, vaisseau de la Fédération. Et on apprend que nous sommes en 2233. Donc, de là, après, je ne sais pas trop si pour les fans, vous voulez déjà rebondir sur l'USS Kelvin, à savoir, enfin, je ne sais pas si on connaît ce
L'USS
vaisseau.
Kelvin qui est peut-être pas forcément mise en avant, hein, je trouve. Le nom ne ressort pas, je trouve, sur le vaisseau. Il a fallu qu'ils le disent, moi, pour que je retienne le nom du vaisseau.
Ouais, mais c'est parce qu'au final, ça n'a pas forcément. Je sais pas si ça a énormément d'importance en fait. Bon, c'est juste ce qui donnera le nom à la timeline qu'ils ont créée, mais c'est un peu un truc de hasard, ça. Je pense que ça n'a pas de.
C'est la première apparition de ce vaisseau dans l'univers, en tout cas.
Je sais pas. Il existe dans.
De mémoire, enfin moi c'est de mémoire, je dirais que non. Enfin que oui, c'est sa première apparition.
De mémoire aussi, il me
Je
semble
suis
qu'on n'a
pas
jamais
certain
entendu
à
parler.
100%. Il a peut-être été cité dans un dialogue, c'est pas impossible, mais
Oui,
quoi.
peut-être dans un des. Oui, dans les. Lorsqu'on fait les reviews sur les états d'armes de chaque membre, peut-être qu'il apparaît par-ci par-là, mais. Et, bon, le voir, je suis quasi sûr que non. Hein.
Ah non, ça par contre, je suis sûr aussi, ouais, on le voit pas, ouais.
Donc ensuite, voilà, ce vaisseau se fait attaquer par une sorte de BA, vaisseau qui a l'air de sortir un peu de nulle part, qui est commandé par un certain Captain Nero, voilà, qui va demander justement au capitaine de l'USS Kelvin de venir sur son vaisseau pour, entre guillemets, parlementer, ce qui n'est pas trop le cas. Et il semble en fait que ce Capitaine Nero soit à la recherche d'un ennemi qui s'appellerait l'ambassadeur Spock. Alors, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que justement le capitaine va laisser la place à un personnage du nom de Kirk. Donc, on va, comment dire, les fans vont très vite en fait rebondir sur ce nom-là. Et en fait, le capitaine actuel va se faire tuer. Et le vaisseau, voilà, va être pris en partie et l'USS Kelvin va être entre de mauvaises mains. Et ce fameux Kirk donc va essayer de faire en sorte d'évacuer tout ce vaisseau avant que celui-ci explose. Et voilà, on constate qu'en fait, Kirk a une femme qui est en train d'accoucher justement. Et en fait, là où tout fan pensait qu'on allait suivre le personnage très connu de James Kirk, et bien en fait, on suivait son père, donc qui se sacrifie en fonçant sur ce vaisseau qui
Qui
semble
m'a fait pleurer.
exploser. Bon. Et oui, d'ailleurs, on peut parler de ça parce que c'est une scène où on découvre un personnage et très rapidement, on passe de la tension en fait à du stress. On les apprécie sur une scène, en fait, un échange, un dialogue. C'est super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous.
Ah bah alors moi personnellement au niveau de la scène, je la trouve très poignante. Il n'y a qu'un truc qui m'embête en fait, c'est la femme de Kurt. En fait, l'actrice, elle m'énerve. Donc à chaque fois que je la vois, son rôle m'énerve. Donc voilà, mais c'est juste personnel. J'ai envie de
Mon
la
épouse
baffer.
la déteste aussi.
Ah voilà. Bon.
Mais pourquoi?
Dr. Horse, regarde la série, tu comprendras pourquoi tu la détestes.
Ah, d'accord, ok.
Voilà.
On
Voilà. Donc
a.
c'est juste pour ça. Après, sinon la scène, je la trouve très bien. Le démarrage commence bien en tout cas. Ce Kurt justement qui faisait un peu écho à James Kurt, du coup, on se dit ah ça va être lui direct et tout machin, et ben en fait non, en fait c'est son père. Enfin il y a un bon rebondissement dès le départ en tout cas.
Ouais. Et on trouve, vous me direz si vous êtes d'accord, Byron et Dragor, on trouve énormément la patte de J.J. Abrams dès cette première scène. Si vous avez vu Lost, les trois quarts des personnages qui meurent dans Lost, c'est fait avec de la musique classique calme comme ça, alors qu'il y a de l'action dans tous les sens, ça pète, et
Mmh,
boum,
tout à fait.
la mort est nette, directe et implacable. Et voilà, on peut reprocher plein de choses à J.J. Abrams, mais ça, je trouve que ça fonctionne. Juste pour cette première scène qui, je sais pas combien de temps elle dure, vous n'avez pas été gêné visuellement? Pas de. Pas trop.
Par des petites couleurs bleues qui se traînent par-ci par-là.
Oui, un petit peu. À deux, trois endroits.
Un petit peu, bah c'est du J.J. Abrams, quoi. Il aime bien les effets de lumière.
Alors là, c'est marrant parce que la première fois et puis la seconde fois, ça m'avait pas choqué, les lenses. Par contre, donc je l'ai regardé là avant-hier pour préparer le podcast et là, ça m'a gêné par contre. Alors je sais pas si c'est. Alors cette fois-ci, la différence c'est que je regardais avec mon projecteur et ouais, il y a des moments. Là sur les premières fois, j'avais la toute première fois, j'avais même pas remarqué. La deuxième fois, j'avais remarqué, mais ça me gênait pas du tout. Et là, je me suis dit, j'aurais dû prendre des lunettes de soleil, quoi.
Mais en fait, j'ai l'impression que ça va être suivant notre sensibilité, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était au cinéma, ça m'avait vachement gêné. Puis, quand je l'ai revu, je l'ai vu plusieurs fois. Quand je l'ai vu chez moi tranquillement, ça ne me gênait pas, puis ça me regênait, puis ça me regênait pas. Et là, quand je l'ai revu il y a 3 jours, ça ne m'a pas du tout gêné. Mais je savais qu'ils y étaient, du coup, c'est pour ça que j'ai amené le sujet sur le tapis.
Ah ouais, d'accord.
Je pense que ça dépend de certaines scènes. Je pense qu'il joue sur la lumière bleue, bon, des fois il la met un peu, on dirait un peu forcée par moment, mais vu que tu es dans le vaisseau et qu'en effet tu constates dans cette première scène, tu ne le constates pas après dans le vaisseau qui est plutôt blanc à l'intérieur, mais là dans ces premières scènes, l'intérieur du vaisseau est plutôt sombre et en fait la lumière, tu as l'impression qu'elle se dégage surtout de l'extérieur. Parce qu'il a voulu jouer sur les reflets en fait de la lumière qui se reflète sur justement les vitres du vaisseau et donner cette tonation de bleu.
Et ouais, ouais, je suis d'accord sur le côté contraste en fait. Ça, il y a un gros contraste. Parce qu'après, moi, c'est vraiment sur cette scène-là, parce que sur les scènes d'après, ça m'a plus du tout gêné. Même là, avec mon projecteur, enfin, quand je disais que ça m'avait gêné pour la première fois, c'est vraiment sur cette scène-là, quoi. Sur la suite, les lensfers sont moins gênants, je trouve.
Ouais, tout à fait, tout à fait.
Oui, je pense que c'était pour placer l'esthétique. Dire, voilà, on est dans le futur, c'est propre, c'est beau, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on le capte moins. Sauf de temps en temps sur le pont. Je crois dans les scènes finales, il me semble. Mais on y reviendra quand on y sera.
Et d'ailleurs, comme tu disais, je pense qu'il a voulu aussi beaucoup montrer dès la scène d'intro, même pour les fans aussi de Star Trek, c'est-à-dire justement avec cette idée de, tu sais, d'un contre-un un peu, genre, vous pensez qu'on va parler de Kirk directement, et bien non, en fait, je vous ai eu, là c'est son père. Peut-être que tu vois, dans cette introduction, c'était un peu que ce soit spectateur simple ou fan de Star Trek, leur dire, Mais voilà, peut-être vous attendiez à ce que je vous déçoive, mais regardez ce que ça donne dès l'introduction.
Oui, c'est possible.
Je l'ai pas ressenti comme ça, mais pour moi, c'est vraiment là, dans cette scène, on est vraiment dans l'iconisation du personnage de Jim Kirk. C'est-à-dire que il est carrément né dans une bataille spatiale. Ça fait très, c'est un peu à la Conan, quoi, qui est né au milieu d'une bataille. Bah, là, c'est pareil. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là, et puis du coup, c'est vraiment l'espèce de la naissance du Christ Saint Kirk, enfin je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là dans cette scène quand même.
Mais sans père.
Et
c'est pas un truc qui
si
me plaît forcément.
On commence déjà
mais...
avec les allusions religieuses, on est mal barré.
Et alors, y a un point de détail rigolo, je sais pas si vous l'avez remarqué, le choix du prénom.
Non.
C'est vraiment un détail, mais ils disent qu'ils vont l'appeler Jim et en fait. Après, dans les autres scènes du film, il s'appelle James.
Oui, c'est
il
vrai.
Se présente comme étant James. C'est assez bizarre, du coup, parce que... Bon, après, c'est un détail, hein, c'est juste... Moi, j'avais trouvé ça rigolo.
Je sais pas. C'est parce que le... Enfin, Jim, c'est le diminutif de James, non? Enfin, je pense qu'ils entendaient directement...
Et là, du coup, c'est... Bon. Du coup, là, c'est l'inverse, quoi.
Oui,
ça donne l'impression que James est le diminutif de Jim, en fait. Enfin...
J'avais pas fait gaffe.
Bon, alors directement après cette introduction qui démarre sur les chapeaux de roue, donc apparaît donc le logo ainsi que le générique de Star Trek.
Sur le thème.
Sur le fameux thème
remixé.
Et là.
Qui défend sa maman.
Ouais, vous en avez pensé quoi? Moi, lui, il est pas mal.
Ah, moi, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Hein. Il pose le décor. Tu sens que c'est épique, quoi.
Ça fait partie des rares trucs que j'ai pas détesté dans le film, donc ouais, c'est effectivement la musique est...
Ah bah, faut le dire, alors. Dis-le.
Bah, justement, je le dis.
Précise.
Byron, t'en as pensé quoi, de la musique?
Je suis fan. C'est quelque chose qui reste en tête assez longtemps, parce que j'ai regardé hier le film, et toute la journée aujourd'hui, je l'ai eu en tête, tout le temps. Pour moi, c'est quelque chose d'entêtant et qui reste, enfin, que j'ai vraiment apprécié.
C'est le genre de musique, tu le mets pendant que tu fais la vaisselle, t'as l'impression que tu fais quelque chose d'épique.
Alors, c'est juste la vaisselle.
Alors, pas sur le côté épique, mais je suis d'accord sur le fait que ça reste dans la tête. Ce qui est assez, vu que moi, c'est un film que j'aime pas, ça fait bizarre parce que quand je l'ai dans la tête, bah, effectivement, je l'aime bien, mais en même temps, ça me rappelle le fait que c'est un film que j'aime pas et ça me, c'est bon. Bref, c'est une petite map.
J'aime me faire du mal.
Mais ouais, c'est ça.
J'ai pas d'image. Ah, ben oui, ben si, ben moi, ça me fait ça avec Le Seigneur des Anneaux. Je déteste Le Seigneur des Anneaux, mais la musique est tellement
bonne. Oh!
Voilà.
Oh,
qui est un autre.
Allez, Bruno, continue, Renaud. On avance dans la fiction.
Je pensais pas en avant quelqu'un qui déteste Le Seigneur des Anneaux.
Attends.
Il y en a toujours un dans notre entourage, c'est un peu pimpin, qui prend pas trop.
Non, mais attendez. Regardez les films de Kevin Smith et vous allez comprendre pourquoi je déteste.
Non, mais on en parlera en off parce que sinon on n'a pas fini.
Allez, Renaud.
Donc là, on va aller directement un peu dans le futur. On va voir Kirk jeune. Quasiment ado, en fait, il va défiler donc sur Terre au volant d'une voiture assez stylée sur une musique rock'n'roll. Je n'ai plus l'artiste en tête, mais c'est super sympa aussi.
Et Beastie Boys, c'était la musique Beastie de la
Boys.
Première mission.
Ah, ok, j'ai mal fait mes devoirs. Et donc, ce jeune garçon est poursuivi par un flic robot, et donc, c'est notre jeune futur Captain Kirk. Et donc voilà, au dernier moment, il va filer donc dans une fosse, en fait, comment dire, même pas une fosse, dans ouais, voilà, exactement. Et donc au dernier moment, sauter du véhicule. Alors on comprend pas trop l'intention. Moi, je pensais au début que vu que la scène doit quand même nous apporter quelque chose, c'était d'expliquer que ce gamin peut-être il a soif d'aventure, peut-être il veut partir. De son couple familial, on sait qu'il vit avec sa mère. Le mec à la voiture qui l'appelle, j'aurais pensé que c'était son beau-père, que donc il n'aimait pas son beau-père, mais Rémi, tu m'as appris à, je crois que c'était hier ou je ne sais pas quand, qu'en fait c'était son oncle, c'est ça?
Mm-hmm. Oui, alors c'est quelque chose qu'on en prend avec les produits dérivés en fait, dans un comic book.
D'accord.
Voilà.
J'avais compris que c'était une famille d'accueil, mais j'avais pas compris que c'était quelqu'un de la famille.
Non, en fait, c'est. Alors c'est bien ça. Alors en fait, si vous voulez, le garçon qu'il croise, c'est son frère de sang, son vrai frère.
Donc, d'accord.
Ça, d'accord.
C'est bizarre. Il est toujours, il vit toujours
chez son demi-frère, alors, du coup.
Non, c'est son vrai frère, c'est son grand frère, en fait.
Ah oui, c'est son grand frère, donc oui, ça marche.
Mais en fait, il y a une scène qui a été coupée au montage dans laquelle on voit toute la famille, on voit son frère qui se dispute avec son oncle et qui part, mais je me souviens plus très bien. Je sais pas si vous vous souvenez, les commandeurs, de cette scène.
J'en ai pas souvenir.
Elle est dans les bonus du Blu-ray, mais je sais plus. Bref, ils sont en train de nettoyer la voiture pour l'oncle, et puis il y a une dispute, et le gosse se barre. Voilà.
Je n'ai jamais regardé les bonus, donc je savais pas.
Je déteste jusqu'au bout. Bah, d'un côté, c'est normal. Je vois pas l'intérêt de se forcer à regarder des bonus d'un film que t'aimes pas. C'est normal.
À moins d'être vraiment vicieux et de chercher des trucs à critiquer dans les bonus aussi, mais bon, voilà, c'est pas trop mon délire.
Et voilà. Et donc d'après ce dont on parle, donc Kerr qui est, on voit que c'est un jeune quand même qui réagit peut-être au quart de tour, voilà, qui est un peu impulsif.
Et moi, j'ai qu'un mot, c'est petit con. Moi, j'ai envie de lui foutre des tartes. Hein.
Ah, merci.
Voilà. Ah, je suis pas tout seul. C'est bon, ça me rassure.
Mais quand même, il y a ce côté toujours, je parlais de l'iconisation du personnage de Kirk par rapport à sa naissance, mais là, je trouve qu'on est encore dans cette idée-là, parce que bon, la figure du rebelle. Enfin, je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est-à-dire de montrer que bon, c'est un rebelle, il a peur de rien, machin. Ouais. C'est quand même la figure du rebelle, c'est quand même quelque chose d'assez valorisé au cinéma de manière générale. Et je pense que c'était un moyen de mettre ça quoi dedans. Sauf que effectivement. Comme toi, je trouve que ça fait plus petit con que rebelle, du coup, mais bon.
Ouais, c'est clair. Ils ont un peu trop poussé, en fait. Le fait de le voir au volant d'une voiture de collection, machin, que l'autre, il lui dit que c'est important, il la balance au ravin, il en a rien à foutre. Moi, j'appelle ça un petit con, enfin. J'appelle pas ça un rebelle. Ouais, même après, les scènes d'après, justement, où on le voit, on en parlera après, mais je trouve aussi que c'est plus un petit con qu'un rebelle, quoi. Enfin. On verra après.
Et donc, scène suivante. Là, transition assez importante, puisqu'on suit, donc on tombe sur la planète Vulcain, où on voit en fait Spock gamin, en fait, qui est en train donc d'être formé. Alors, c'est très intéressant, parce qu'on arrive sur cette planète en fait Vulcain, où on voit comme une sorte de planète un peu déserte, et avec ces endroits où ils sont comme des sortes de fourmilières. Ça m'a fait penser à ça directement, j'ai noté ça de suite. Et juste après, en fait, on voit tous ces gamins qui sont formés dans des petites trous, chacun dans leur trou, à répondre
comme
à des
questions.
Ça fait vraiment, ouais, ça fait vraiment une ruche, voilà, avec cette idée exactement de ruche, de fourmilière. Et ça, j'ai trouvé vraiment pas mal, en fait, l'idée par l'image de faire penser ça. Je sais pas si vous en avez pensé pareil aussi.
Si, moi, je
n'avais pas du tout perçu ça. Enfin, je vois ce que tu veux dire, mais je l'avais pas du tout perçu comme ça. C'est pas, enfin, alors après bon, c'est pas trop l'idée que je me fais du peuple Vulcain, le côté fourmilière, mais bon, oui, pourquoi pas, ouais.
Ou plus comme disait Absol, ce côté peut-être plus ruche d'ailleurs, ouais, que fourmilière.
Ouais, c'est pareil, ça fait pas trop l'effet que j'ai du peuple Vulcain, mais oui, ouais, on peut le voir comme ça, effectivement. Je vois bien effectivement, cette espèce de creux, un peu en forme de bol, ça fait un peu comme les alvéoles, je vois le truc, quoi.
Et donc, scène après, en fait, on voit, en fait, justement le personnage de Spock qui en fait, va se battre avec des camarades à lui, parce que justement, ils vont l'insulter par rapport à ses origines humaines. Voilà, ces origines qui sont vraiment vues comme quelque chose de négatif, péjoratif, et donc le jeune Spock va se laisser emporter, en fait, et va se battre. Et scène d'après, en fait, il va avoir une discussion avec son père, où, suite à cette bagarre, ils vont venir en parler, par exemple, de sa mère, et où, justement, Spock essaie de savoir un peu pourquoi son père a choisi, justement, une terrienne, une humaine, et ce à quoi son père va lui répondre qu'en fait, c'était juste pour des aspects quasiment politiques et pour se rapprocher du peuple terrien. Donc, cette idée toujours de cacher des émotions qui pourraient y avoir.
Il y a deux clins d'œil dans cette scène, enfin dans ces deux petites scènes. La dispute avec les autres jeunes Vulcains qui l'insultent et qui lui disent que c'est pour tester ses émotions, c'est une scène qui est tirée en fait d'un épisode de la série animée. dont j'ai oublié le nom, mais c'est un épisode de la série animée où,
c'est le deuxième.
Où Spock revient dans le passé et oui, c'est Yesteryear. Voilà, on parlait de la série animée tout à l'heure, c'est intéressant parce que ça fait partie des ces deux scènes-là d'ailleurs, ça fait partie des scènes, des rares scènes qui sont des références ou des clins d'œil à la série. Alors que la plupart des clins d'œil des références de ce film sont plutôt sur le film La Colère de Khan. D'accord. Et donc la deuxième scène quand il demande à son père pourquoi il s'est marié avec une humaine, c'est une scène qui est un clin d'œil et une explicitation de d'une scène de l'épisode de Babel. Attendez. Je vais pas retrouver. C'est un épisode de la série originale où Sarek, donc le père de Spock, est blessé et il faut qu'il se fasse soigner. Il a besoin de, je sais plus, une transfusion de sang ou d'organes de Spock. Et le problème, c'est que Spock est indispensable pour les relations diplomatiques dedans. Enfin bref, il y a un dilemme avec ça. Et il y a un moment donné, donc la mère de Spock est présente et Spock lui demande à son père pourquoi. Parce qu'elle dit des trucs complètement illogiques, enfin des trucs très humains, quoi. Mmh. Et du coup, il dit, enfin, pourquoi tu t'es mis avec une humaine? Et il dit, à l'époque, ça me paraissait logique.
D'accord.
Et il dit rien de plus, en fait.
Ah, ok.
Et du coup, c'est intéressant de voir que là, effectivement, bah, c'est comme si c'était un peu la suite de la conversation, mais en avance, où Sarek explique la logique derrière le fait qu'il soit mis avec une humaine, quoi.
D'accord, ok.
Et juste, tant qu'on en est à expliquer les références, les alcôves dans lesquelles les Vulcains apprennent vient du troisième ou quatrième film. On voit Spock en fait parler à un ordinateur sur Vulcain et l'ordi enchaîne les questions comme on les voit faire et il doit répondre de manière logique à toutes les questions.
D'accord.
Voilà.
Ok.
J'ai retrouvé le nom de l'épisode dont je parlais, Journée to Babel. Voilà.
Ils en ont fait une série, non? La Casa de Babel.
Oh non. Voilà. Elle est unique, là.
Et un film avec Brad Pitt aussi.
Oui.
Allez, non, ensuite, c'est pas mal. Que ouais. Se passe-t-il?
Et donc là, encore une fois, une transition un peu plus tard dans le temps, puisqu'on voit en fait Spock qui est devant un conseil. Alors, vous allez me dire les professionnels si c'est une sorte de conseil vulcain.
Juste avant, il parle avec sa mère. Hein.
Oui.
Winona
il parle
Rider.
Avec sa mère justement de ça, de la fameuse cérémonie.
Oui, exact. Mais vas-y, parce que tu t'en souviens plus que moi.
Voilà. Alors, juste avant, donc, juste après que Spock, du coup, ait parlé avec son père, on le voit quelques années plus tard discuter avec sa mère, qui lui demande justement de ne pas lui en vouloir, si jamais il fait le rite du Colimar. C'est bien ça?
Exact. Oui,
voilà.
Exact.
Donc, ce rite, il nous explique vite fait qu'en gros, c'est le fait de purger toutes ses émotions et ne plus rien ressentir. Et il ne veut pas que ça soit pris comme un rejet de son humanité, en fait, par sa mère. Voilà. Et juste après, on passe justement devant ce conseil qui prend la décision, en fait, qu'il peut rejoindre l'Académie des Vulcains, malgré son handicap. Et son sous-entendu, son handicap, c'est le fait d'être à moitié humain. Et donc là, Spock leur dit gentiment d'aller se faire voir que, en fait, bah, comme il trouve que c'est un handicap, bah, écoutez, je me casse.
Alors c'est un petit peu plus particulier. Le rite de Colimar, c'est à nouveau une référence aux séries et aux films, mais le conseil devant lequel passe Spock, c'est pas le rite de Colimar. Ça c'est juste, je pense, un genre de conseil d'après-étude pour décider de son avenir.
D'accord. C'est l'Académie des sciences de Vulcain.
Ouais, merci Byron. Alors que le rite de Colimar, c'est un véritable rite religieux, mais ça c'est la limite en fait dans le casage de références pour faire plaisir aux fans, ça perd les personnes qui débarquent, qui pensent des choses en fait qui sont fausses.
Ouais, tu vois, parce que moi, pour moi, le rite, c'était un rite de passage pour rentrer à l'académie. Moi, j'avais compris ça, tu vois.
Ouais, mais du coup, c'est vrai que même en tant que fan, moi, ça fait partie des références. Il y a plein de références que j'ai pas du tout aimées dans le film. Parce que justement, elles font qu'apporter de la confusion, ou elles sont même, assez contradictoires par rapport à ça à quoi elles font référence. En fait, là, on est en plein dedans, quoi.
Bah, Iron, t'as trouvé comment le traitement de l'enfance de Jim et de Spock?
Enfin, je rejoins les autres, hein. Pour moi, enfin, Jim, c'est vraiment un petit con. Il a pas vraiment une, enfin, c'est vraiment pas un rebelle, c'est vraiment un petit con. Pour ça, je vais pas trop m'étaler dessus parce que j'ai pas, enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment un con, point. C'est le fait qu'il agisse comme ça, de balancer la voiture au fond du ravin, j'ai pas trop, Enfin, j'ai vraiment pas apprécié. Enfin, pour moi, enfin, ça nous explique effectivement son caractère de plus tard, mais je vois pas en quoi ça. Enfin, c'est une scène pour moi qui n'a rien à voir. Ça nous expliquera effectivement son caractère, les scènes qu'on verra plus tard, mais non, je suis vraiment pas fan de cette scène en tout cas. Et pour Spock, je me suis pris d'affection en fait, voir qu'il a eu du mal à vivre son côté humain. Pour tous les Vulcains, c'est un handicap, c'est une maladie qu'on peut transposer aujourd'hui dans la société actuelle. Et vraiment, ça m'a fait mal au cœur de le voir mal, de se voir, enfin de le voir se faire maltraiter par les autres.
Et
Et
en
par
plus, c'est même pas de la maltraitance méchante, c'est de la maltraitance test. C'est une expérience en fait, Spock. Il est considéré un peu comme un rat dans le laboratoire. Vas-y, qu'on teste, qu'on touche un petit peu pour voir comment il réagit, quoi.
Ouais, c'est un jouet, c'est un truc de nouveau, on sait pas ce que c'est, ben on va le taquiner, quoi. Et après, par rapport au rite de Collinard, je vois pas en quoi la référence apporte un plus au film. Simplement, cette scène, pour moi, elle a rien, pas besoin d'être là.
Il y a pas mal de scènes hein, qui servent pas à
Non, non,
grand-chose dans le
attends,
film.
elle
Hein,
nous permet de voir Winona Ryder, c'est tout.
Qu'on verra plus tard aussi.
Dans Stranger Things. Ah oui,
Aussi.
non, oui.
Aussi.
Allez, on continue la fiction?
Allez, on continue la fiction. Transition sur la planète Terre. On retrouve dans un bar. Alors là, c'est aussi, est-ce que ça va être une référence un peu Star Wars? Kirk qui a l'air. Soit il fait une soirée, soit il est un peu paumé dans sa vie. En fait, parler avec une élève officier du nom de Uhura, qui commande d'ailleurs, alors ça pour la petite pour la petite référence, elle commande un slusho. Est-ce que ça vous parle, cette boisson?
Pas du
Alors,
tout.
pas du tout.
Non, non, absolument pas.
En fait, c'est une boisson qu'on retrouve dans les réalisations, les films ou même les productions de J.J. Abrams. Notamment, ce slusho, ça a été découvert sur Cloverfield, où en fait, ils s'amusent à mettre des petits easter eggs comme ça. Et cette boisson, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et on la voit en
D'accord.
fait commander un slusho. Ça, je ne l'avais pas du tout capté. Et c'est en revoyant le film pour l'émission que je m'en suis rendu compte.
Ah, c'est marrant.
J'avais vérifié sur le
C'est
net.
le noob qui nous apprend des trucs.
Mais ouais. Bon, il faut un peu quand même.
Ok.
Et
Ah, juste attends, parce que alors référence à Star Wars, je sais pas vraiment parce que enfin c'est un film de science-fiction et Star Wars a mis tellement à renouveler un peu la base du film de science-fiction. Il y a une cantina dans tous les films de science-fiction. Il y a des vaisseaux spatiaux dans tous les space opéras. Donc je sais pas si c'est de la lèche à Star Wars vraiment. Je pense pas parce que déjà dans d'autres films Star Trek, on a cette scène de, enfin des scènes de cantina comme ça. Donc je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que je me trompe, mais je sais pas.
Alors, moi je pense que moi je suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, enfin la cantina en elle-même, je suis d'accord avec toi, mais sur sa position dans le film, je pense. Alors on y reviendra plus loin, mais vu que ça fait déjà 2 fois qu'on parle de Star Wars, je pense que ce film, alors c'est pas uniquement ça, mais je pense que pour J.J. Abrams, c'est en partie une démo technique.
Avant de faire le Star Wars, c'est ce que je pensais aussi.
Pour montrer ce qu'il va être capable de faire sur Star Wars. Et même la structure scénaristique du film, bon, évidemment, on va me dire que c'est normal parce que c'est Joseph Campbell, c'est voilà. Mais c'est vraiment calqué sur l'épisode 4 de Star Wars. D'ailleurs, alors, et justement, là, ça arrive à peu près, ça arrive un peu tout, enfin, pas à la minute près, mais plus ou moins dans la même temporalité que dans Star Wars, quoi. Sauf que c'est juste inversé le moment où il rencontre le vieux sage qui va être joué par Pike là
Tout à fait.
il le rencontre après la cantina enfin ou juste avant enfin juste pendant alors dans Star Wars c'est il rencontre Obi-Wan avant mais globalement on est quand même dans le même délire quoi
En fait, on va retomber sur la théorie du monomythe, il me semble, où en
voilà c'est
fait,
ça.
voilà, c'est un gamin qui il va recevoir un appel à l'aventure, et de cette quête, en fait, il va trouver une sorte de une aide qui va venir, ouais, bah, voilà, par exemple, de Pike ou dans Star Wars, ça va être Obi-Wan. Et ensuite, voilà, va arriver des péripéties pour à la fin, en fait, arriver au bout de sa quête, qui lui aura révélé une partie de lui qu'il ne connaissait pas. Ou... C'est pour ça que ça ressemble aussi, hein, d'ailleurs, ouais, tout à fait.
Juste, alors c'est qui Chewbacca?
Bon, ça veut dire qu'il faut continuer, c'est ça?
Ouais, c'est ça. On est parti trop loin.
Donc, suite à cette tactique un peu ou cet essai de drague de Kirk envers donc cet élève officier, va intervenir une bagarre, donc qui va au bout d'un moment s'arrêter lorsque Kirk en fait commencera à prendre une grosse branlée. Bon, après un contre trois ou quatre, ça c'est pas forcément évident. Et en effet, voilà, on
ouais,
en parlait. Donc.
Content.
Et en effet, c'est le Capitaine Pike là qui va les séparer et qui va parler en fait avec Kirk, lui expliquant qu'il a connu son père et que voilà, il gâche les talents qu'il pourrait avoir. Et qu'il faudrait qu'ils rejoignent en fait ces sortes d'élèves pour avoir peut-être un avenir un peu plus radieux. Ce à quoi Kirk ne sait pas trop ce qu'il doit faire, termine à pimenter un peu sa soirée pour après partir en moto. Là par contre, je suis désolé encore de repartir sur Star Wars, mais sa manière de filmer quelqu'un sur une moto avec les paysages et décors derrière, c'est exactement identique dans Star Wars 7, quoi. Là, c'est quelque chose, je pense, qu'il aime bien, c'est-à-dire filmer quelqu'un qui est au volant d'un véhicule et puis filmer derrière les décors et montrer voilà ce petit personnage dans un monde assez grand quand même, assez important.
Alors moi, je trouve que c'est rigolo parce que les références à Star Wars, on les voit pas au même endroit, mais on va y venir.
Ouais.
Ouais, parce que moi c'est la scène juste après, donc là il décide de rejoindre la navette justement à moto. Il arrive dans la navette et il se tape la tête contre une poutre. Et alors ça, moi j'ai vu direct la référence à Star Wars 4 où t'as un des Stormtroopers qui se prend une poutrelle aussi en fond. Voilà, donc je me suis demandé putain, est-ce que justement c'est une référence à Star Wars ? Mais moi je l'ai vu là la référence, mais.
Alors ça peut être une double référence parce que en fait dans je sais plus lequel des films Star Trek par contre je suis désolé mais il y a Scotty qui se prend une poutre et le cadrage de la caméra est exactement le même en fait.
Donc, d'accord, ok, ça marche.
Peut-être une double référence, hein, c'est peut-être fait exprès.
Ça pourrait être rigolo, ouais.
Ah, est-ce qu'on pourrait revenir juste sur la scène de drague dans la
qui était hyper lourd dingue.
Ouais. Ouais, non, c'est vraiment ça. Et la réaction des officiers, qui est assez, on va dire très contemporaine, et pas très 23e siècle.
Pas
je
très
trouve,
Starfleet. Ouais.
Ça donne pas l'impression d'une évolution sociétale en fait. Mais bon, c'est un truc assez général dans le film. Mais ouais, vraiment, Kirk. Ouais, même moi je l'aurais baffé quoi. Enfin, c'est pas possible.
Une tête à claque.
Ouais, la fille qui lui donne le prénom et il dit ah oui, c'est le prénom que je t'aurais donné. Bon, là, je pense que tu t'éclates la main contre ton front, quoi.
C'est ça.
Même dans l'attitude corporelle, en fait, on dirait qu'il est complètement bourré. Ça fait vraiment le pilier de comptoir qui va faire chier une nana, quoi.
Oui.
Et la réaction d'Uhura est, globalement, je trouve quand même assez classe. Ça fait un peu femme sur d'elle, intelligente, etc.
On va dire que Uhura répond en Starfleet, alors que ses collègues, justement, répondent en bourrin de rugbyman.
Après, il y a juste un truc sur les réponses de Uhura, c'est le truc où elle lui sort un cliché sur les campagnards. Je sais plus ce qu'elle lui dit, tu tripotes des vaches.
Oui,
enfin,
tout à fait. Ouais.
Je me rappelle plus la phrase en anglais. Et là, justement, ça fait même comment dire hors sujet dans le reste des répliques d'Uhura de cette scène. Tu te demandes ce qu'elle fout là, cette réplique. Elle est un peu, elle fait un peu intruse, quoi.
Alors après, c'est pas pour défendre le film, mais est-ce que par juste ce terme-là, elle voulait dire qu'en gros, bien qu'on soit dans un univers qui soit quand même dans le futur, voilà, Kirk reste quand même dans un patelin où peut-être la technologie n'est pas avancée et vraiment il est extérieur aux évolutions et à l'espace qui l'entoure.
Ouais, mais là, elle l'accuse de zoophilie quand même, c'est pas tout à fait.
Il
y a une nuance, quoi.
Les mœurs sont peut-être évoluées.
Mais par contre, juste pour revenir sur la réaction des cadets qui cherchent la bagarre au 23e siècle, c'est pas très Starfleet. C'est vrai, mais, et là je vais faire appel à ta mémoire de TNG, Jean-Luc Picard, au 24e siècle, jeune cadet, va se faire massacrer la gueule en provoquant une bagarre dans un bar. Du coup, je pense que c'est plus un message sur la jeunesse. Ils sont jeunes fringants, là, ils débarquent, ils veulent rouler des mécaniques, et voilà.
Je suis pas d'accord, parce que la bagarre de Picard, c'est contre un Nausicaan, quand même, qui sont pas du tout un peuple de la Fédération, c'est les Nausicaans, en général, quand tu les croises, c'est des pirates, c'est des gens qui sont très violents, même plus violents que les Klingons, et c'est les Nausicaans qui provoquent la bagarre. Picard, l'erreur qu'il a fait, qui entre guillemets une erreur, c'est que il a répondu à la provocation, mais c'est tout quoi. C'est pas. Par contre, il y a une autre bagarre qu'on peut utiliser pour justifier ça, mais encore une fois, c'est avec des aliens. C'est dans l'épisode avec les tribus de la série originale, The Tribbles, avec mon accent anglais dégueulasse, où il y a une grosse baston dans le mess avec les Klingons et plusieurs officiers adultes et confirmés de Starfleet qui se battent parce qu'on a insulté l'Enterprise quoi. Donc oui, des gens qui se battent comme des chiffonniers, ça existe quand même au 23e siècle, mais souvent avec des espèces extraterrestres et pas entre humains. Et puis quand même, c'est bien mis en scène et bien expliqué dans cet épisode-là, c'est que là le Klingon en question, il fait à Scotty la pire insulte qu'on puisse faire à un ingénieur, c'est dire que son vaisseau est une poubelle. Et donc c'est expliqué comme ça qu'ils perdent leur sang-froid. Alors que là, il y a pas ce côté-là. C'est vraiment dispute dans un bar classique du 21e siècle, quoi. Voire même la baston de saloon dans Lucky Luke.
Ok, t'as gagné celle-là. Et c'est avant la rencontre avec le docteur McCoy.
Exactement. Voilà. Donc on est revenu sur cette scène-là, mais en voilà, Kirk décide en effet de partir donc avec Pike et rencontre en effet ce personnage de Leonard McCoy, un peu particulier dans son style, mais avec rapidement sympathisé. Voilà, donc le trajet, on ne le voit pas, on a juste là aussi trois ans plus tard qui s'affiche directement. Peut-être vous souhaitez revenir les connaisseurs un peu plus sur ce personnage de Leonard McCoy.
Non, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. On va avancer dans la fiction.
Est-ce qu'il a la même personnalité? Parce que là, McCoy, c'est quand même un alcoolique qui a peur de l'espace. Hein.
Alors, bah justement, McCoy, normalement, enfin dans la série originale, il a peur de la téléportation. Et au contraire, il préfère les voyages en navette.
D'accord.
Mais, okay. Je pense que c'est un des premiers. Comment dire? Bon, de toute façon, on va spoiler forcément. C'est un des premiers signes qu'on est dans une timeline alternative, je pense.
D'accord, ok.
Qui doit s'arranger pour les connaisseurs qui vont dire tiens, il y a un problème là, pour ensuite l'expliquer par la timeline alternative, je pense.
Ok, ça marche.
C'est possible.
Ok. Donc au final, presque la timeline alternative, est-ce que ce serait aussi une sorte de sortie de secours pour J.J. Abrams, se dire oui, je suis pas à la lettre l'univers, mais parce que eh bien, il s'agit d'un autre univers parallèle.
Ouais, je pense que c'est le meilleur moyen après 10 films, parce que c'est ça, hein, il y avait 10 films avant.
Ouais.
Voilà, 10 films pour faire venir une nouvelle fanbase sur un truc, il faut un univers parallèle.
Je suis pas d'accord avec ça, mais on en reparlera plus tard.
On pourra en reparler vers la fin, je pense, parce qu'on est, ouais, même moi qui ai apprécié le film, je suis pas vraiment d'accord.
Ouais, parce que à moins de faire venir un nouvel équipage et tout, mais si tu reprends les anciens, tu peux pas reprendre les anciens avec leur background. Ou alors tu passes un film à tout expliquer, tu vois. C'est en tout cas dans un film, dans une série, t'as plus le temps, on va dire, de bien développer les personnages. Mais dans un film, partir avec 10 films de background comme ça à résumer, je pense que c'est peut-être un peu trop.
Alors tu parlais de reprendre les anciens. Il y a 4 films avec un nouvel équipage quand même. En fait.
D'accord, ok, ouais.
Allez, Renaud, continue. Ouais,
on va continuer, on en parlera plus tard. Non, on en parlera plus tard parce que ça va être long.
Donc le fameux 3 ans plus tard, où là on va entrer dans une sorte de teen movie. Où en fait, on va voir Kirk qui est en train de coucher en fait avec la coloc de Uhura. Voilà, donc Uhura qui arrive dans la pièce, qui découvre qu'il y a Kirk. Donc voilà, petite scène
gratuite pour... de meuf à poil.
Ouais, voilà.
Après, là, au niveau du film, au niveau du rythme, on peut peut-être en parler un petit peu. Il est très très assuré parce que là, t'es passé à une scène, mais en fait, il y en a eu 2 autres avant. Il y en a eu une où on revient sur les ennemis, mais quelques secondes en fait où on revient les ennemis qui attendent Spock. Mais on sait que Spock, il a une 20aine d'années, donc pourquoi ils l'attendent? Et en fait, on se rend compte que c'est un autre Spock. Donc là, premier truc il y aurait 2 Spock dans cette timeline. Et une deuxième scène où Jim et McCoy parlent d'un test, le test d'Ishimaru, qui serait exactement impossible et que test que Jim du coup tente de refaire pour la 3e fois. Voilà. Donc non, ça vient avant.
Ah ouais?
Ouais,
avant la scène où il est avec la fille, la coloc.
Oui, en fait, on parle du test, il y a le résumé avec la coloc, et après, on passe au test. D'accord. fait, il y a une micro scène de 10 à 15 secondes où justement ils disent, ah ouais, le test, machin. Et je trouve que le rythme est vachement assuré, en fait. Il y a plein de mini-scènes et ces mini-scènes ne servent pas forcément le récit, en plus.
Le même ressenti, ouais.
Voilà.
Mmh, ouais.
Voilà, je te laisse continuer.
Non, mais tu résumais très bien. Kirk qui va passer en effet ce test de Kobayashi Maru, en tournant un peu le test, c'est-à-dire qu'il va réussir là où une personne n'a réussi, parce que en fait il va faire en sorte de faire bugger le test, ou en tout cas s'en sortir d'une manière qui n'est pas censée être celle-ci.
Oui, il l'a piraté, quoi.
Exactement. Fait. Et donc là, on va se rendre compte que derrière ce test, c'est Spock. Et sauf que ça ne plaît pas à tout le monde, donc Kirk va passer comme devant une sorte de tribunal, en fait, pour s'expliquer par rapport à cette triche. Et là, on va voir, en fait, le premier face-à-face entre Kirk et Spock. Et là, on va constater, en effet, que tout oppose ces deux personnages. Il y en a un qui est plutôt calme, sûr de lui, qui n'a l'air de dégager aucune émotion et qui a l'air de... mais d'expliquer tout de manière, mais voilà, c'est normal que ça se passe ainsi et rien d'autre. Et derrière, Kirk qui va essayer de dire, mais tant qu'on arrive à trouver la solution, qu'importe la manière dont on a trouvé cette solution, on peut réussir. Et tout ça va être interrompu par un SOS envoyé de Vulcain.
Et il y a justement sur cette scène-là aussi une petite gifle à Kirk. Une grosse tarte, ouais. Il se prend une grosse tarte dans la tronche, puisque justement, en fait, Spock lui explique le but réel du test. Ceux qui n'avaient pas compris, en fait, le fait qu'il soit ultra difficile et quasi impossible, c'était le fait de faire apprendre de faire face à la peur, en fait. Et Kirk a complètement détourné ce test-là et n'a pas compris le but, en fait, justement parce que c'est un gros bourrin et qu'il comprend rien, quoi. C'est le film lui-même qui le dit, là.
Tout à fait.
Et ça le calme un peu.
Et c'est la première très grosse référence au film La Colère de Khan, qui est le deuxième film sorti sur Star Trek, où Kirk explique à un moment donné qu'il y avait ce test et qu'il a triché. Quoi. Est-ce que cette scène vous a pas, enfin, en tant que newbie de, en tant que cadet de Star Trek, est-ce que vous avez compris l'utilité de la scène ou pas? Parce que moi j'ai l'impression qu'elle est là juste pour le clin d'œil quasiment, quoi.
Alors, moi, j'ai compris le but de la scène du tribunal, c'est ça, hein, en gros,
ouais.
Que tu parles.
Ouais. Même la scène du test et la scène du tribunal. Quoi.
Alors, si t'as pas la scène du test, pour moi, tu peux supprimer la scène du tribunal. Elle est pas importante. Par contre, si tu mets le test, je trouve que c'est important quand même d'avoir la scène du tribunal après, justement, pour remettre Kirk justement face à ses responsabilités, quoi. De dire, bah voilà, être capitaine d'un navire, c'est être prêt aussi à faire face à la mort et de faire tout son possible pour l'éviter, mais on ne peut pas éviter l'impossible, quoi. Donc je la trouve intéressante dans ce sens-là, cette scène-là, comparée à d'autres justement qu'on aurait pu facilement enlever.
Okay. J'ai pas pensé à ce côté responsabilité, ouais, c'est pas mal. Donc on avance, donc ce SOS envoyé donc de Vulcain, donc là où tous les différents équipages vont partir, sauf cependant Kirk, vu que justement il est on va dire entre guillemets condamné. Cependant son pote Leonard McCoy va faire en sorte de le faire passer pour malade afin de qu'il puisse venir avec eux. Et de là, donc, on a tous les vaisseaux qui vont partir dans l'hyperespace pour aller justement répondre à l'appel, le SOS, donc, de Vulcain. Mm-hmm. Et là, donc, Kirk va intervenir en fait dans la pièce principale, là où est le commandant du Pike ainsi que tout l'équipage.
Alors, pour moi, tu sautes des petits trucs importants du film, perso.
Vas-y.
Uhura qui tient tête à Spock, parce que justement, et elle lui rappelle que c'est une bonne élève, qu'elle est reconnue par Spock. Et donc elle lui tient tête pour être sur l'Enterprise, alors qu'elle n'aurait pas dû y être. Et après, tu as aussi le fait que McCoy, du coup, pour le faire rentrer, en gros, le contamine. Et ça va donner face à une blague qui est pour moi de très mauvais goût sur l'allergie de McCoy, quand même, quand il se rend compte qu'il fait le parallèle, là, qu'il essaie de dire un peu qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas si tu te souviens de ça.
Pourquoi de mauvais goût?
Ouais,
moi personnellement, je la trouve vraiment elle est pas drôle, cette blague où il est allergique, il a la langue qui en gonfle et du coup il arrive pas à prononcer les mots, enfin.
Et c'est limite du Michael Bay au niveau de l'humour, je pense. Ouais. Enfin,
je trouve même que Michael Bay est plus fin, c'est beaucoup plus fin. Et ça, c'est la première, c'est la première blague qui va en amener 2-3 autres. Je les ai notées tellement je les ai trouvées ridicules, quoi. Mais il y a une blague sur l'impuissance juste après, avec l'autre qui a oublié le frein à main. Et juste après, t'as une autre blague où bah, le mec c'est un russe, donc il parle mal, donc il se fait pas reconnaître par l'ordinateur.
Je l'avais noté ça là aussi. Ouais.
Voilà. Je suis assez d'accord. L'humour dans ce film est très.
Et là, on s'en prend trois d'affilée. Ouais. On s'en prend trois d'affilée. Et franchement, moi, ça m'a sorti du film.
Le coup du frein à main, j'avais pas fait le parallèle sexuel. C'est pour ça que là, j'ai explosé de rire. Ah,
d'accord, ok. mais c'est le gros serment, c'est ça, c'est une panne. Hein. Voilà.
Effectivement, moi aussi, j'ai trouvé ça très très lourd. Ça fait partie des trucs qui m'énervaient avant et qui maintenant m'énervent plus, mais me rendent juste triste en fait de me dire ouais, on en est là. Enfin, ouais.
Ouais, c'est une facilité scénaristique, on va dire. Enfin, même pas scénaristique, mais une facilité dans l'humour, quoi.
C'est plus pour mettre du rythme, entre guillemets, mais je trouve que ça casse plus le rythme qu'autre chose. Et donc, du coup, juste pour finir la phrase, là, sur l'événement, histoire que tu sois pas perdu. Donc là, Kurt, du coup, se rend compte, il fait le parallèle entre l'appel de détresse et les événements qui ont tué, qui se sont déroulés lorsque son père est mort. Et du coup, il tente de prévenir la passerelle. Voilà.
Exactement.
Et on en est là.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est une scène qui est super intéressante parce que justement, d'un coup, en fait, comme tu le disais, de là où on va partir un peu sur une scène d'humour ou même où on va présenter de nouveaux personnages et rire un peu de leur personnalité ou voilà, blague un peu douteuse, eh bien, on va direct en fait tomber sur une scène où il va y avoir une pression. Ça va être super intéressant parce qu'en fait, on voit que le vaisseau est piégé en fait par l'hypervitesse. Et qui peuvent pas éviter ce que Kirk leur dit, c'est-à-dire que sûrement, ben, en fait, ils vont se faire avoir, ils arrivent dans un piège. Et c'est super intéressant parce qu'on sait pas ce qu'il y a là-bas, ils doivent essayer de réagir vite. Et c'est là, en fait, où on se rend compte d'ailleurs que Kirk, en fait, dans des situations comme ça, eh bien, il peut garder la tête froide, justement, chose qui ne l'était pas, en fait, quand il était devant le tribunal. Et il peut assurer sa position, et on voit d'ailleurs même Spock qui est d'accord avec lui. Et cette idée voilà, de tension qui arrive d'un coup en fait, après cette scène, et puis il y a toute voilà, une réalisation caméra à l'épaule et tout ça, caméra penchée, enfin c'est bien que ça commence à avancer. Ouais. Au tiers du film, c'est pas mal.
Après, moi j'ai à peu près tout dit sur la scène.
On va passer alors
au combat.
Ils arrivent sur l'endroit en fait le quasiment le No Man's Land quoi parce que en fait c'est un massacre, il y a tout qui est détruit et en fait donc on retrouve ce capitaine Nero en fait qui va demander à Pike d'arriver sur son vaisseau. Mm-hmm. Et là donc on va retrouver la réalisation de J.J. Abrams où en fait on va voir donc le vaisseau de Pike et le vaisseau de Nero, donc déjà une différence dans les dimensions. Et après, en fait, on va voir cette petite navette en fait qui va sortir du vaisseau de Pike et qui rend le truc encore plus impressionnant en fait pour expliquer que vraiment là, ben, y a une différence de poids quoi, de poids lourd, de catégorie.
Il y a, je pense qu'on en parlera après, mais il y a un gros travail sur le film, sur les échelles.
Ouais, ça c'est le style de
vraiment un très très gros travail, mais on en reparlera plus tard, je pense.
Et donc, lorsque Pike en fait va partir sur ce vaisseau, ils vont faire en sorte en fait de ah oui voilà Kirk est sous l'eau voilà ça j'avais oublié d'en parler en fait amarré à ce vaisseau il y a une sorte de d'encre en fait de une sorte de ouais de pic qui est en train de s'enfoncer en fait sur une planète sur la planète Vulcain et donc tandis que Pike en fait va aller sur ce vaisseau Kirk et sous l'eau en fait vont en profiter eux pour on va dire arrimer sur cette machine et pour essayer de la stopper
Kirk sous l'eau et Olson.
Ouais, RIP.
Voilà, c'est ça.
Et vous avez eu votre baptême du premier Red Shirt, d'ailleurs.
Red Shirt ? C'est quoi ça ?
Les Red Shirts, en fait, c'est une petite blague de Trekker. De manière générale, en fait, dans la série originale, lorsque Kirk et Spock... pas que Kirk et Spock, mais lorsque l'Enterprise arrive sur une planète, il y a une équipe qui descend sur place et... Bim, pour montrer le danger, il y a un mec en rouge qui se fait tuer.
D'accord,
alors
ok.
C'est moins souvent que ce qu'on dit, souvent ce qu'on entend sur Internet, mais ça arrive très souvent. Et du coup, voilà, c'est plus une petite blague en disant, tiens, on va mettre un mec en rouge qui va mourir.
Alors, c'est peut-être une petite blague, mais je trouve que c'est hyper de mauvais goût, parce que le mec meurt quand même comme un con.
Oui, et puis il passe pour un con tout le long de la descente. Il y a, ouais,
ah, mais...
et puis je suis un gros con.
Je suis un concombre, ouais.
Je suis un
macho. Je vais m'écraser, j'ouvre pas mon parachute, j'ouvre pas mon parachute, j'ouvre. Ah bah merde, je suis mort. Et puis après, on apprend, oh bah c'est lui qui avait les explosifs pour faire péter le truc. Oh, c'est dommage. Enfin, j'ai trouvé la scène vraiment bof, quoi. Là, sur le coup. J'ai pas compris. Et en plus, donc du coup, il y a Kurt et Sulu, du coup, qui vont combattre deux ennemis sur cette passerelle. Alors, on sait pas trop d'où ils sortent, mais il y a deux ennemis. Et ils vont combattre au corps à corps. J'ai pas compris non plus.
Oui, d'ailleurs, après les Black Douteuses, on en parle de l'Asiatique, champion d'escrime, qui fait des cabrioles en se battant.
Oui, c'est pas faux.
Alors, et pour rajouter par-dessus, c'est censé être une référence, mais pour moi c'est plus vraiment une insulte à la série originale, parce que justement Sulu dans la série originale, il y a un épisode, il est dans les premiers de la saison 1,
Naked Time.
The Naked Time, où l'équipage devient pète un peu un plomb à cause d'un, je sais plus, à cause d'un virus ou un truc comme ça, et en fait on voit Sulu sortir torse nu avec un fleuret à la main et dire en garde Richelieu. Et en fait la petite anecdote, c'est que justement Georges Takei, il en avait marre un peu du cliché de l'asiatique à la Jet Li, c'était je sais plus qui de l'époque, mais de l'asiatique qui fait des arts martiaux, etc. Et justement pour casser ce cliché, pour le contredire, et pour parce que vraiment la série originale était progressiste sur cette idée-là de briser les clichés et les tous les trucs un peu racistes qu'il y a, et donc ils lui ont fait faire un truc très européen, voilà, un truc de français, hein, en garde Richelieu avec un fleuret en mode mousquetaire, pour justement briser le cliché, voilà.
D'accord, okay. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il fait de l'extrême. Ok, je comprends mieux.
Parce que là, bah effectivement, ça casse tout le truc, parce que c'est tout le contraire, en fait. On renforce le cliché au lieu de le combattre.
Mis à part qu'il dit qu'il fait de l'escrime, et c'est vrai que l'escrime, ça fait pas asiatique, mais en fait, son épée aurait été plus comme un fleuret, ça aurait été peut-être mieux passé, mais là, c'était vraiment un sabre, en fait.
Ouais, il y a vraiment le côté katana,
puis
il y a sa manière de combattre aussi, qui fait très, très cliché d'asiatique.
Alors, c'est très cliché, c'est vrai. Je trouve quand même qu'elle permet de rehausser le personnage de Sulu, qui vient de se faire une scène où ben, je viens d'apprendre qu'il avait une panne sexuelle. Et du coup, on le voit, et puis rater sa première scène d'introduction. Puis dans la deuxième scène, il dit « Oui, je fais de l'escrime, tout le monde est là, what ?» Et puis là, c'est bon, il sort l'escrime et des fois, il tue deux mecs quand même. Oui. Donc, c'est vrai que c'est cliché, raciste, mal amené.
Bah, en fait, moi, je trouve que c'est équilibré. Le problème, c'est vraiment mal amené. C'est-à-dire qu'ils combattent au corps à corps. Pourquoi ? Parce que Kurt est un gros bourrin et qu'il saute sur l'ennemi. Il aurait tiré son taser et il lui aurait tiré dessus, c'était fini, quoi.
Pour la défense du film, son phaser tombe au moment où
il est dans
la
plateforme. Je l'ai pas vu. Ok. Moi, j'ai juste vu la scène où il fonçait comme un gros bourrin. Je me suis fait, mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Enfin bon.
Byron, t'en as pensé quoi, toi, de cette scène?
Un peu lourde. Notamment avec le red shirt. Je vais y arriver. Et au final, bah, il meurt. J'ai saisi la référence tout de suite. Après, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est pendant la descente. Les effets spéciaux étaient mal faits. La transposition de la tête sur le casque, je trouve ça fait vraiment, c'est vraiment mal fait.
Putain, j'avais trouvé que c'était bien réussi.
Ouais. Ah ouais, moi ça m'a choqué aussi. Ouais, ça c'était la première fois que ça me choquait, mais en le revoyant là pour le voir, effectivement, ouais. Pourtant, je suis pas trop attaché au visuel moi en général, et là ça m'a marqué. Ouais.
Ah, moi je suis très attaché au visuel, donc forcément ça m'a marqué, puisque au niveau de l'échelle, j'ai l'impression que les visages sont plus gros que le casque, pratiquement. Donc ça m'avait vraiment marqué.
Alors je vais revenir au bonus. Dans les bonus, ils expliquent comment ils ont filmé cette scène, parce que elle est quand même, enfin moi je la trouvais très impressionnante. Et
la descente est impressionnante.
Et bizarre, c'est que en fait c'est un véritable costume, donc peut-être qu'en post-prod ils ont retouché les visages, mais j'ai pas fait gaffe. Et en fait ils posent les acteurs sur des miroirs très grands, qui doivent faire dans les 3-4 mètres de carré, et ils filment les acteurs en plongée. C'est grâce à ça qu'on voit le ciel et le soleil derrière eux, et en fait ils regardent vers le haut, et donc on a l'impression qu'ils regardent vers le bas, puisque après on inverse l'image, et je trouve l'astuce géniale, et c'est pour ça que moi j'aime bien cette scène. Le seul point négatif pour moi, c'est le red shirt.
Bah, c'est surtout que en gros c'est parce qu'il est con qu'il est mort. Il aurait eu un problème de parachute, tu vois, ça serait mieux passé, je pense. Tu vois, un problème d'ouverture ou de machin,
On aurait tiré sur son parachute, ça aurait chié.
Ouais, voilà, tu vois. Mais là, c'est... Ouais, j'ai pas envie. Ah bah, je meurs. Ah bah, je suis con.
C'est vrai qu'en plus, il apporte rien de particulier, parce que les autres personnages, ils ont aussi ce risque de mourir. Je veux dire, sans le fait que celui-ci meure, ben on a quand même conscience du danger. Donc, au final, sa mort n'apporte quasiment pas grand-chose, parce que juste pour indiquer qu'il veut tout faire péter et qu'il veut le détruire, cette sorte d'encre-là, y a pas... ouais, son personnage n'est pas forcément très utile. Ouais.
Ah, ok. Quelque chose à rajouter sur cette scène?
Il y a juste un truc que je trouve dommage, dans le sens où c'est une scène qui est quand même faite pour être impressionnante, et il y a un truc qui aurait pu la rendre encore plus impressionnante, c'est au moment de l'entrée dans l'atmosphère, ils auraient pu faire comme dans la plupart des films de SF justement qui en profitent pour ça, c'est faire apparaître les flammes, et ça aurait pu être assez cool, je pense, de voir la combinaison rougir et s'enflammer comme...
Oui.
À chaque fois qu'il y a un corps qui rentre dans l'atmosphère, quoi.
Je suis d'accord, parce que enfin juste la transition, on a juste en fait un écran gris, juste un écran de fumée gris, et c'est vrai qu'on ce qu'on voit partout, et je pense que c'est devenu une référence, c'est effectivement l'entrée dans l'atmosphère, que ce soit rouge, et là d'avoir juste vu un écran gris, pour moi enfin ils sont même pas rentrés dans l'atmosphère, en fait ils sont juste passés à travers un nuage, enfin moi c'est comme ça que j'ai ressenti en tout cas.
On continue?
Ouais, vas-y.
Alors donc Kirk ainsi que Sulu arrive à détruire quand même cette base. Cependant, les ennemis réussissent quand même à balancer une sorte de mini-bombe. On ne sait pas trop de quoi il s'agit.
La matière rouge.
Exactement. Voilà, matière rouge. Merci. Jusqu'à comprendre en fait qu'il s'agit en fait de la création d'une sorte de trou noir qui vont en fait implanter quasiment au centre de Vulcain, pardon. Et à partir de là, donc nos deux héros là tombent dans le vide, Kirk essayant de sauver Sulu. Ils vont réussir à être téléportés par Pavel, qui va nous sortir un yo-moyo, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Et tandis que Spock, lui, va demander à être téléporté en fait sur justement Vulcain pour essayer de récupérer sa famille. Et de là, en allant les récupérer, il va quasiment réussir à sauver tout le monde. Sauf sa petite maman. Ce qu'on en retient, donc c'est une scène émouvante, ouais. Et visuellement, elle est super impressionnante.
Oui. Après, c'est la scène d'abandon de poste. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Spock qui se barre. Après, du coup, il y a l'autre, je sais plus, Skitoff, j'arrive pas à le
Chekhov.
Aussi, Chekhov, du coup, qui se barre de son poste aussi. Les deux se cassent. Pour des bonnes raisons, mais les deux se cassent de leur poste. J'ai trouvé ça assez rigolo.
Oui, du coup, il n'y a plus de... Il n'y a plus personne.
Il n'y a plus personne à la passerelle, mais bon, c'est pas grave.
Allez, ensuite.
Ouais, c'est particulier. J'attendais voir s'il y avait du rebond.
Et non, il n'y avait pas de rebond, c'était juste ça. Pardon.
Et donc voilà, bon, mais c'est un peu la crise, hein. Les ennemis s'enfuient, donc avec Pike, et donc Spock, qui est le commandement, en fait, de ce vaisseau. Et là, en fait, on va tomber sur le premier journal de bord du film, donc journal de bord 2258, où Spock va expliquer que quasiment là il ne sait plus quoi faire en fait, et c'est là où on va voir son côté le plus humain, c'est-à-dire qu'il va éprouver de la haine, on se rend compte qu'il éprouvait aussi de l'amour, hein, bien entendu. En fait, c'est toutes ces émotions qui s'expriment d'un coup, et c'est là qu'on voit qu'au final c'était son côté humain est toujours là, bien qu'il essayait de le cacher. Voilà. Et de là, voilà, après on voit Nero qui parle à Pike, indiquant que lui voulait se venger de la Fédération, qui a en fait laissé détruire, donc anéantir son peuple, donc Romulus, et que lui, pour se venger, après avoir détruit cette planète, lui veut détruire la planète Terre, il me semble.
C'est ça, et on découvre aussi comment leur planète est morte dans leur timeline.
Exactement.
Ça, normalement, on le découvre plus tard.
Enfin, on découvre que pourquoi ils veulent se venger, pardon, voilà. J'ai mal exprimé. Voilà. Donc quoi, leur planète a été détruite, machin, que c'est un survivant, et c'est pour ça qu'ils tentent de supprimer la Fédération, quoi.
Et de là, donc, avant d'arriver au milieu du film, on va avoir un dernier conflit, en fait, entre Kirk, qui lui va vouloir poursuivre, en fait, Nero, pardon, et aller, contre les ordres de Spock, en fait, et suite à ça, il va péter un plomb, et il va, en fait, se faire éjecter sur une planète. Et donc là, on va arriver au milieu du film, donc, où vraiment tout va au plus mal pour nos héros, voilà, ils ont beaucoup de personnages, mais une planète entière a disparu, ils sont séparés, plus rien ne fonctionne dans l'équipage.
Et on a aussi la présentation réellement de comment fonctionne le voyage dans le temps, dans l'univers de Star Trek. Enfin, dans ce film, en tout cas. Comme quoi, en fait, quand on voyage dans le temps, ça crée une nouvelle timeline, un petit peu comme dans Retour vers le futur ou Dragon Ball Z.
J'aime tes références.
Bah, j'y peux rien, c'est des références. Voilà.
Ah non, en gros, c'est pas une critique.
Ah, c'est pas une critique, bon, ça va alors. Voilà, que en gros, bah, on peut pas réellement changer le passé, quoi, dans ce système-là. On change pas le passé, on change juste de ligne temporelle, quoi.
Bah, effectivement, c'est pas tout à fait, en tout cas, c'est pas tout à fait comme ça que fonctionne le voyage dans le temps dans le reste de Star Trek.
D'accord, ok.
On est plutôt dans du remplacement, de la modification de la timeline originale.
Après, il y a quand même un gros sous-tête au niveau de ça, j'ai trouvé, c'est que malgré, en fait, qu'on est dans une nouvelle timeline, qu'on est dans une nouvelle ligne temporelle, l'équipage, en fait, de l'Enterprise est voué à être le même. J'ai trouvé ça sympa comme symbole, en fait, que ça soit, justement, on est dans une ligne temporelle complètement différente, mais Kurt sera toujours dans l'Enterprise, Spock sera toujours dans l'Enterprise, et puis les autres aussi, on retrouvera tout le monde, et tout le monde est voué et a un petit peu ce destin, en fait.
Il y a une grosse, iconisation des personnages là-dessus. Je suis très d'accord avec toi, mais c'est moi au contraire, c'est un truc que j'ai pas aimé. On est vraiment dans le truc, ces persos sont tellement importants que quelle que soit la timeline, ils seront ensemble. Enfin, ouais.
D'une façon ou d'une autre, dans le temps, on arrivera à les retrouver.
Ouais, c'est bien vu. Ouais, j'y avais pas pensé. C'est intéressant. Ouais. C'est justement la note d'espoir qu'apporte en général le Star Trek, quoi. Ouais, après avoir vu les différentes séries, c'est plutôt cette idée-là, voilà, que beaucoup d'espoir à chaque fois, de liens entre les personnages, ouais, entre les races. Hein.
Voilà, et après, du coup, Kurt se retrouve sur Delta Vega.
Mais avant de parler de Delta Vega, je pense qu'on va faire un break. Ça va me permettre de couper l'émission en deux parties. À tout de suite, ou à bientôt. Ciao, bisous.
Star Trek pour les nuls.